Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Ouvrir un texte, il sera très très court dans la lecture, mais j'aimerais y apporter un commentaire. Jean chapitre 19, alors pour ceux qui étaient là vendredi, vous allez peut-être penser tout de suite que je vais répéter les mêmes choses, mais non, je ne répète pas les mêmes choses. Parce qu'on a pris ce texte vendredi soir à la réunion qui nous a réunis ensemble. Alors Jean chapitre 19, verset 25, on va commencer par là. Jean 19, verset 25. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple la prit chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit « Afin que l'Écriture soit accomplie, j'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et, l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli » et, baissant la tête, il rendit l'esprit. J'aimerais relire le verset 28. Où nous avons sous les yeux cette parole. Après cela, Jésus, qui savait que tout était consommé, dit « Afin que l'Écriture soit accomplie, j'ai soif. » J'ai soif. Vendredi soir, ce n'était pas tout à fait le même thème. Enfin, c'était toujours la passion du Christ. Mais c'était « Tout est accompli. » Et sachant que les choses étaient consommées, que finalement, eh bien là, l'accomplissement des choses et de la volonté de Dieu touché à leur terme, Jésus dit cette parole, ces deux paroles, et c'est sur ces deux paroles que j'aimerais apporter un commentaire ce matin. J'ai soif. Ça veut dire beaucoup de choses. Il y a là devant nous tout un univers et tout un message extraordinaire à travers ces dernières paroles. À ce moment-là, on peut parler d'une nuit inhabituelle qui est tombée sur la terre. Bien que, cependant, ce soit l'après-midi. L'obscurité va s'apesantir, eh bien, sur le monde, alors qu'il est 3 heures de l'après-midi. On devine Jésus à bout de souffrance, et bientôt la mort va le délivrer. Très rapidement, la mort va l'enlever. Alors que, quelquefois, nous savons que les crucifiés, d'après les historiens, peuvent souffrir jusqu'à... C'est horrible, hein, mais 12, 24, peut-être même 48 heures d'agonie, Jésus va rendre l'esprit très rapidement. L'évangéliste qui est, et là c'est à regretter, avec Marie, la mère de Jésus, seul témoin de la scène, fait mention d'un détail qui serait certainement passé sous silence s'il ne l'eût consigné dans son évangile et naturellement eh bien, entendu lui-même et rapporté et écrit. Deux mots, lourds de signification et pourtant tellement simples. Jésus dira ces deux mots, « J'ai soif. » J'ai soif. Banal, vous direz peut-être cette parole, si elle n'était précédée de ceci, « Afin que l'Écriture fût accomplie. » Et rien de ce qui est écrit dans l'Évangile n'est à retrancher ou à rajouter. Jésus nous parle que même pas un trait de lettre tombera. Parce que finalement, eh bien, c'est important. Et tout ce qui nous est donné dans toute la vie de Jésus, et puis dans tout ce que nous appelons l'Écriture sainte, est quelque chose d'important pour chacun d'entre nous. Et si véritablement ces mots ont frappé les oreilles jusqu'à l'écrire de l'apôtre ou de l'évangéliste Jean, c'est qu'il y a une raison. On peut suivre... en ouvrant l'Évangile, pas à pas, la passion de Jésus au travers des écrits prophétiques. Et c'est ça ce que j'aimerais justement mettre devant vous ce matin, qui ont été établis plusieurs siècles à l'avance. Alors, des grands prophètes, il y en a eu. Hein. On connaît David, prophète d'entre les prophètes, qui a eu la vision du Christ crucifié, le psaume 22, celui que nous avons lu tout à l'heure en introduction. Et puis, je pense à Ésaïe aussi. Je pense à Ézéchiel, à Jérémie, avec tellement de force détail, dans les moindres choses, nous décrivant pour ses contemporains, ou décrivant pour ses contemporains les temps à venir, et faisant une peinture, nous pourrions dire, de Jésus, eh bien, tellement saisissante, que cela aurait dû renverser le peuple d'Israël quand ils ont vu la réalité sous leurs yeux, et que le Messie leur est apparu, que le Fils de Dieu est venu sur la terre, et pourtant non. Alors moi j'aimerais dire quelques paroles sur le thème prophétique, parce que il est important, puisque cette parole « j'ai soif » fait partie justement d'une prophétie, afin que la parole soit accomplie, et rien de ce qui avait été dit ne devait passer inaperçu, ou devait passer finalement être oublié. Dieu n'oublie rien. Quelle évidence sommes-nous confrontés devant l'inspiration de l'Écriture, l'inspiration prophétique. Voyez par exemple la trahison. Ça fait partie d'un psaume. Quand il est dit, celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Vous avez deviné Judas. Et ça, c'était bien avant, c'était dans le livre des psaumes. Voyez par exemple le signe prophétique de l'abandon de ses disciples, lorsque nous lisons aussi dans la parole de Dieu, quand le Messie dira, je suis un objet de terreur pour mes amis, ceux qui me voient s'enfuient loin de moi. Ça s'est accompli. Les faux témoins, par exemple, les faux accusateurs, eh bien, c'est dans la bouche du prophète, mais c'est dans la bouche de Jésus, en quelque sorte. De faux témoins se lèvent, ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Ça, c'était David qui disait ça. Mais c'était une anticipation de ce que le Messie dirait. Le silence de Christ devant ses juges. Jugez-vous-même. Il n'a point ouvert la bouche. Son innocence est manifestée prophétiquement. Quoiqu'il n'eût point commis de violence et de fraude dans sa bouche. Lorsqu'on a mis Jésus avec les malfaiteurs, la prophétie aussi est là pour nous dire, eh bien voilà, les choses sont accomplies. Il a été mis au nombre des malfaiteurs, nous dit un autre passage biblique. La crucifixion de Jésus est mise en évidence lorsque nous lisons, et dans ce psaume 22 que nous avons ouvert tout à l'heure, quand il dit, je suis un ver et non un homme. Et puis, son dépouillement, par exemple, il se partage mes vêtements. Ou encore, lorsque nous voyons le Christ moqué et humilié, ceux qui me voient se moquent de moi. Et puis, suppliés, ils ont percé mes mains et mes pieds. Nous voulons encore d'autres prophéties. Lorsque nous le voyons abandonné du Père, toujours le psaume 22, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et encore, priant pour ses persécuteurs, lorsqu'il remet son esprit entre les mains de son Père, lorsque ses os ne seront pas brisés, toujours le psaume 22, enseveli avec le riche, chose qui s'est réalisée, et cette parole sur laquelle nous allons nous arrêter, simple expression de deux mots, j'ai soif, afin que l'Écriture soit accomplie, j'ai soif. Pour apaiser ma soif, il m'abreuve de vinaigre. Ça, c'est la prophétie. Pour apaiser ma soif, il m'abreuve de vinaigre. Mais Jésus pourra dire, par la bouche de David, bien avant, 1000 ans auparavant, « Mon âme a soif du Dieu vivant. » Ce sont des paroles qui sont là, finalement, pour nous montrer combien l'Écriture sainte est pertinente et combien elle est exacte, et nous n'avons absolument pas à douter. Je l'ai dit et je le répète, ce sont les psaumes et Ésaïe qui nous fournissent les plus belles prédictions sur le Messie, sur Jésus, le serviteur de l'Éternel. Jésus dit ces mots à la croix, j'ai soif. Parce qu'au ciel, on n'aura plus soif. Parce qu'au ciel, personne n'aura soif. Et ça, c'est quelque chose de le savoir. Mais ce besoin de boire nous révèle la double nature du Sauveur. Jésus n'est pas un Dieu humanisé et il n'est pas un homme divinisé. Mais ces mots témoignent par-delà toute compréhension, c'est vrai qu'il va au-delà de notre intelligence, de sa parfaite humanité tout autant que de sa parfaite divinité. Et là, nous sommes confrontés devant le spectacle de la mort de Jésus à celui qui est pleinement homme et celui qui est pleinement Dieu. Parce que pour moi, Jésus est Dieu. Mais néanmoins, pour accomplir la mission et le salut de l'humanité, il fallait qu'il soit homme également. Dieu, le Créateur, s'incarne dans la personne de Jésus-Christ, de Jésus, son Fils, le Sauveur, pour concilier dans une vie d'homme ce qu'il sait de nos limitations, de nos douleurs et de nos souffrances. Et parmi les besoins essentiels humains qui existent dans l'espèce humaine, eh bien c'est la soif, c'est-à-dire le besoin de boire. Parce que nous ne pouvons pas vivre sans boire. Nous ne pouvons pas vivre de ce que Dieu a créé, c'est-à-dire l'eau. Je me suis laissé dire qu'on peut se passer de nourriture pendant plusieurs jours, mais de ne pas boire, ça c'est quelque chose qui est infernal, et qui fait que l'homme qui éprouve la soif jusqu'à mourir connaît des souffrances indicibles. Il paraît que c'est comme ça. Je ne sais pas, je n'ai jamais fait l'essai, mais hélas, probablement, dans l'histoire des hommes, il y a eu certainement des hommes et des femmes qui ont éprouvé la soif jusqu'à mourir, et en mourir d'ailleurs. Alors parmi les besoins essentiels que nous avons, eh bien, c'est justement de nous désaltérer. Après cela, qui douterait encore que Jésus est engagé, a été épargné de ce que nous connaissons au quotidien, c'est-à-dire les fatigues. Et ce matin, s'il y a des frères et des sœurs qui êtes fatigués, eh bien sachez que Jésus a été aussi fatigué. Et puis, la faim également, le manque de nourriture. Et puis, le sommeil, lorsque nous sommes éprouvés par une maladie particulière, et que là, nous ne trouvons pas ni jour ni nuit le repos, c'est quelque chose d'éprouvant. Vous voyez, ce sont des choses essentielles du fonctionnement dans notre nature et dans notre humanité, tout simplement. Jésus a connu les pleurs, Jésus a connu l'émotion, tout comme nous. Pour nous dire, et écrit en lettres de feu, comme ça nous est rappelé dans l'Épître aux Hébreux, dans cette parole que vous connaissez, puisqu'il nous est dit, puisque nous avons un grand sacrificateur, un grand sauveur, celui qui est venu, Dieu venu et s'est incarné, et qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurant ferme dans la foi que nous professons, et ne nous abandonnons pas à la tristesse, ou ne nous abandonnons pas au découragement ou au désespoir, mais demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il était tenté comme nous en toutes choses. Et s'il y a là, parmi le peuple de Dieu, des frères et des sœurs, des hommes et des femmes qui sont tentés, sachez que vos tentations ont été vaincues, si vous le voulez, si vous le croyez. C'est ce qui vous donne et c'est ce qui nous donne la force. Parce que quelqu'un a marché devant nous en disant, la victoire, je l'ai remportée, et toute tentation, eh bien, vous pouvez maintenant vous l'approprier, tenter en toute chose sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance. Ce matin, c'est peut-être pas le fait du hasard que nous soyons ensemble. Approchons-nous donc du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans tous nos besoins, dans toutes nos faims, dans toutes nos soifs, dans toutes nos fatigues, dans tout ce qui peut affliger à la fois nos corps et nos âmes et nos esprits. Parlons maintenant, si vous voulez bien, de la soif et de la souffrance. Parce que nous nous apercevons que soif et souffrance sont étroitement liés. Les blessés sur le champ de bataille, l'opéré qui lutte contre la mort, l'homme qui va rendre, l'homme ou la femme qui va rendre son dernier soupir, certains malades connaissent une soif intense parce qu'ils luttent, parce qu'il y a une lutte. Vous voyez, il y a cette association entre lutte et soif. Je crois qu'on n'enverrait pas des soldats ou des commandos en opération sans leur donner de l'eau. Suprême honte pour envoyer des jeunes gens sur le front en 1914-1918, on ne leur donnait pas de l'eau, on leur donnait de l'eau de vie. C'est une honte. Pour envoyer des gens qui étaient ivres pour aller se faire tuer. Enfin, moi je considère ça comme une honte. Alors qu'on aurait pu leur donner de l'eau seulement. Bien sûr, on disait c'est un anesthésiant. Qu'est-ce qu'on en a fait ? 1 500 000 morts. Pour Jésus, voilà les causes de sa soif. Son corps est déchiré depuis plusieurs heures. La couronne d'épines qu'on a plantée dans son crâne, la flagellation, le port de la croix sur son dos, Heureusement, il y a eu Simon de Cyrène qui est passé par là. Ses mains et ses pieds qui sont transpercés. La fièvre. Le soleil de plomb de la matinée qui va se changer en obscurité. Et puis, ensuite, tout ce qui a pu être vécu par Jésus. Et pas une goutte d'eau fraîche à Jésus. Personne n'y a pensé. Personne ne lui a offert cette goutte d'eau fraîche. Et c'est là justement où l'homme qui se trouve dans une situation a tellement besoin, il ne veut pas de bonbons, il ne veut pas de nourriture, il ne veut pas autre chose. Même les choses les plus exquises, il n'en veut pas, il veut de l'eau. Il revient à l'essentiel de ce quoi il est constitué, parce que nous sommes constitués de je ne sais pas combien de pourcentage d'eau. Et c'est ça ce que nous avons besoin, de l'eau. Jésus n'a pas jusqu'à cette heure formulé aucune plainte relative à sa souffrance physique. Il endure les clous, il endure la couronne d'épines. Il endure le sang qui est en train de se coller sur son corps. Il endure en silence. Et le « j'ai soif », vous le remarquerez, le « j'ai soif » est l'unique allusion au feu qui brûle en lui. Il parlera en faveur de ses adversaires. Il parlera en faveur de la foule. « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. » Il dira des choses, les sept paroles de la croix. Mais il dira seulement au dernier moment, au moment de rendre l'esprit, puisque c'est la fin, tout étant consommé, alors il parlera à ce moment-là de ce feu qui brûle à l'intérieur. Et vous savez, pour le feu, il faut de l'eau. Ouais. On éteint le feu avec de l'eau. Et c'est le feu qui le consume. Alors Jésus dira, j'ai soif. Voilà celui qui devait être prié par les hommes, c'est lui-même qui demande et qui prie les hommes. Parce que normalement, c'est l'homme qui doit prier son Dieu. Mais là, c'est Dieu qui prie l'homme. De lui donner la chose la plus simple, la plus élémentaire qui soit. Il leur réclame pourtant si peu, qui ne coûte pratiquement rien de l'eau. Ça ne coûte pas grand-chose dans nos pays, en tous les cas, je ne sais pas, peut-être en Orient, ça a certainement une autre valeur. Mais néanmoins, quand on sent quelqu'un qui est là dans d'affreuses souffrances, eh bien, spontanément, on laisse parler son cœur, on lui donne de l'eau, un peu d'eau. Et Jésus, en disant « j'ai soif », ne dit pas cela pour éveiller la pitié et attirer sur lui, eh bien là, des commisérations et toutes sortes de commentaires remplis d'une affection sincère, probablement, mais ce n'est pas pour cela. Alors, on va l'entendre, cette parole, du bas de la croix. Et on lui tend, au bout d'un bâton, une éponge imprégnée de vinaigre. Dans Matthieu, il est écrit, et vous retrouverez le correspondant, qu'on lui présente du vin mêlé de miel, de fiel. Remarquez, je ne pense pas que le miel soit quelque chose de très désaltérant dans ces conditions. Mais mêlé de fiel. Le fiel, j'en parlais avec les jeunes parce que ça tombait comme cela hier soir à la réunion de jeunesse. Vous savez ce que c'est que le fiel ? Hein, c'est une petite glande qui se trouve sur les volailles, quelque chose comme ça. Et si vous l'oubliez, vous allez voir un peu votre poulet, il va avoir un drôle de goût. Hein. Là, vous avez, ça sera les herbes amères de la Pâque. Hein. Eh oui. Il paraît que c'est affreux, moi j'en ai jamais mangé. Enfin bon. La cuisinière prend bien soin d'enlever justement cette petite glande, parce que ça gâche tout. Hein. Alors c'est ce que l'on présente. Mais cet infect breuvage n'étanche pas la soif. Mais peut-être qu'il a une vertu, ce vinaigre et ce fiel. Peut-être que dans ce temps, il avait une vertu particulière, parce que, paraît-il, il sert de narcotique, d'anesthésiant. Mais vous remarquez que c'est fait pour atténuer peut-être la souffrance des crucifiés, mais vous remarquez avec moi que Jésus n'en veut pas. Et vous savez pourquoi il n'en veut pas, je vais vous le dire. Jésus aurait pu, avec cette soif intense, lorsque vous avez vraiment soif, ça vous est arrivé, hein, on n'a jamais de grande soif dans nos pays, il ne fait pas si chaud que ça, mais quelquefois ça arrive, après un labeur, de dire, eh bien voilà, j'ai un verre d'eau qui ruisselle, vous savez, ça vous fait rêver un petit peu, hein, quand il fait, non mais, attendez, vous restez avec moi quand même. Partez pas tout de suite, attendez, je finis. Mais quand vous voyez, quand vous avez grandement soif, que vous êtes brûlé, ou alors que vous êtes sur un lit d'hôpital, et que vous demandez à l'infirmière un verre ou une bouteille, là, d'une eau minérale, parce que c'est quelque chose, et on ne vous le donne pas. Parce qu'il ne faut pas que vous buviez, pour certaines raisons thérapeutiques. Mais là, vous le désirez, vous ne pensez qu'à ça. Qu'est-ce que ça fait du bien? Mais Jésus n'en veut pas. Il ne veut pas de cette éponge qui est imprégnée de fiel et de vinaigre. Vous savez pourquoi Jésus n'en veut pas? Parce qu'il veut garder toute sa lucidité. C'est ce qui m'amène à comprendre que ce mélange de vinaigre et de fiel, c'est un anesthésiant, c'est un soporifique pour atténuer la douleur. Mais il n'en veut pas. Et pourquoi? Parce que son sacrifice est un sacrifice, écoutez bien le mot, il est peut-être un peu difficile à prononcer pour moi, mais vous à entendre, substitutionnel. C'est-à-dire qu'il prend la place de quelqu'un. Et comme il prend la place de quelqu'un, il ne pense pas à lui. Il prend notre place à chacun. Pour Pierre, Paul, pour les uns, Marie ou je ne sais qui d'autre, pour tous ceux qui sont sur la terre, c'est un sacrifice substitutionnel. Et parce qu'il est substitutionnel, eh bien, c'est pour nous qu'il meurt. Et il ne veut pas être stupéfié par quelque drogue quelconque. Et c'est pour ça qu'il pourra dire ces paroles, tout est accompli. Parce que si véritablement, eh bien, il avait été à un moment ou un autre absent de la scène de la crucifixion, parce qu'on lui avait donné un soporifique, parce qu'on lui avait donné un stupéfiant, à ce moment-là, il n'aurait pas pu dire « Tout est accompli ». C'est la suite de ce que nous avons dit vendredi soir. « Tout est accompli. J'ai été jusqu'au bout de la souffrance, jusqu'au bout dans la mort. » Voilà le message de Pâques. Et voilà ces paroles du « J'ai soif ». Et pourtant, il le refuse. Les hommes au pied de la croix lui refusent l'eau qu'il demande, que lui-même enseignait aux autres et proposait aux autres à ceux qui avaient soif. Écoutez ces paroles. Quiconque donnera seulement un verre d'eau à l'un de ses petits parce qu'il est fils de Dieu, je ne sais pas, il ne perdra pas sa récompense. C'est lui-même qui avait demandé aux hommes de donner des verres d'eau. Ou encore, dans d'autres textes que nous allons découvrir, quiconque donnera seulement un verre d'eau fraîche, précisément le texte, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. Il existe une autre soif, celle-ci cachée au fond du cœur des hommes, bien souvent inconsciente, donc ignorée. C'est la soif spirituelle. Il y a autour de nous, dans cette ville et dans cette région, je le crois, certainement des centaines, probablement des milliers d'hommes, des dizaines de milliers d'hommes qui ont cette soif-là mais qui ne le savent pas. Où tout est fait pour les convaincre qu'ils n'ont pas soif, spirituellement. Pour les amener à croire que cette soif-là, ce n'est pas la bonne soif. Un jour, il était midi, là où le soleil est à son zénith, là où le soleil est au plus haut dans le ciel. Jésus a traversé la Samarie et il s'est arrêté auprès d'un puits. Ce puits était déserté parce qu'il faisait trop chaud. Les habitants n'étaient pas autour de cette source. Jusqu'au moment où une femme inconnue, une Samaritaine, s'est approchée pour puiser de l'eau. Et figurez-vous ce que Jésus lui a demandé. « Donne-moi à boire !» Comme dans le texte que nous avons lu ce matin. « Donne-moi à boire !» à une étrangère, à une Samaritaine. Et la Samaritaine va rester interloquée. Parce que premièrement, c'est un juif. Deuxièmement, c'est un homme. Enfin, vous le mettez dans l'ordre que vous voulez. Mais tout était là pour que justement, eh bien, ça ne se passe pas. Et qu'il n'y a rien ne se fasse. Et elle est interloquée de la suite que Jésus va lui faire, dévoilant à cette femme ignorante, inconsciente de son besoin, malheureuse comme la pierre. Excusez-moi, je ne sais pas si les pierres sont malheureuses, mais c'est ce qu'on dit. Mais une femme terriblement malheureuse, et Jésus va lui dire ces paroles, tout simplement, que lui a une réponse, qu'il connaît une source, qu'il connaît un besoin insoupçonné, qui est le besoin insoupçonné de tous les hommes et de toutes les femmes qui viennent dans ce monde, et il dira ces mots magnifiques, extraordinaires. Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais demandé à boire. Il y a des paroles merveilleuses dans l'Évangile, vous ne trouvez pas ? Magnifique, extraordinaire, et il t'aurait donné de l'eau, mais pas n'importe quelle eau, de l'eau vive. Il y a une grande différence entre l'eau stagnante et l'eau vive. L'eau d'une citerne qui est contenue en réserve comme cela pour les moments où on en aura besoin, et l'eau qui coule sous la terre et qui coule parce que c'est une source. Et celle-là, elle est toujours pure, elle est toujours fraîche, quoique aujourd'hui, il faut mieux se méfier. Pour ça qu'on installe des... Enfin bon, ça c'est la société. Hein. Alors vous savez, hein, la pollution à tous les niveaux. Hein. Pollution physique, naturelle, du sous-sol, pollution de l'air, pollution des mers, hein, pollution partout, pollution morale, pollution spirituelle. Mais quand Jésus nous dit, et je crois que c'est un message qui est d'autant plus pour nous aujourd'hui, une source d'eau vive. Il t'aurait donné de l'eau vive. Jésus, par cette anecdote, affirme, lui, auquel on refuse le nécessaire au corps alors qu'il est en train de souffrir l'agonie sur la croix, qu'il veut donner de l'eau de vie pour l'âme, pour l'esprit de l'homme, qui fera que celui qui en boit n'aura plus jamais soif. C'est ça la découverte extraordinaire. C'est ça le miracle de Pâques. C'est cela, cette parole et l'explication de cette parole, quand Jésus laisse tomber de la croix ses ultimes mots avant de dire « Je remets mon esprit entre tes mains, Père, j'ai soif. » Qu'est-ce qu'un verre d'eau à côté des fleuves d'eau vive ? Que Jésus nous promet dans l'évangile de Jean au chapitre 7 et au verset 37, on peut peut-être le lire simplement, dans cette parole, après une fête où les gens, eh bien, ont vécu des choses formidables parce que c'est une grande fête juive, c'est la fête de la Pentecôte, la fête des tabernacles. On a fait la fête pendant 7 jours, c'est le dernier jour. Et si les gens ont pu se désaltérer, c'était à ce moment-là. Hein. Mais Jésus pressent qu'ils ont encore terriblement soif, ces hommes. Et il est dit que le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couvriront de son sein, comme dit l'Écriture. » Et il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Vous vous rendez compte, ces gens, milliers de gens qui sont venus à Jérusalem pour adorer, ils ont dû en boire de l'eau, et peut-être pas certainement seulement de l'eau. Mais Jésus les voit repartir dans leur pays, dans leur village, dans leur ville, avec une terrible soif morale et spirituelle. Et c'est pourquoi il dit, haut et fort, « Mais si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. » Après une fête, on normalement devrait plus avoir soif, me semble-t-il, parce qu'on a bu. Enfin, bu, façon de parler, vous comprenez ce que je veux dire. Hein? Mais normalement, on devrait ni avoir faim, ni avoir soif. Et Jésus envoie un message à tous ces hommes innombrables d'Israël réunis à Jérusalem pour la fête des tabernacles en disant « Mais si quelqu'un a soif ?» Et Jésus voyait certainement cette immensité d'un besoin spirituel, d'un océan de misère dans le cœur des hommes. Et il sentait bien qu'ils avaient soif, mais soif d'autre chose. Pas soif de tradition religieuse comme nous allons le vivre là au moment de Pâques où les gens, bon, va traditionnellement vont faire ceci et cela. Je ne suis pas contre les fêtes de famille, au contraire, c'est bien que les familles se réunissent. Mais je dis que aujourd'hui, cette année, qu'est-ce qui va changer de l'année dernière ? Qu'est-ce qui va changer de l'année prochaine ? Tradition, tradition, rite, cérémonie. Et puis l'homme repart toujours avec la même soif. Il repart toujours à vide, parce qu'il a besoin d'autre chose que cela. Ça, ça ne nourrit pas, et ça ne désaltère pas. Les raisons de la soif spirituelle, elles tournent autour d'un mot. C'est le péché. N'ayons pas peur, hein, de le dire. C'est le péché. Et vous savez que dans l'étymologie du mot péché en grec, ça veut dire manquer le but. Voilà. On manque l'essentiel, on manque le principal. Jésus est mort à la croix pour détruire le fléau du péché. C'est pour ça qu'il monte. Et c'est pour ça qu'il dira ces paroles. Parce que le péché donnera toujours soif. Oui. Il donnera toujours et de plus en plus soif. Et si vous me permettez une expression moderne, le péché donne une soif d'enfer. Quelquefois, il y a des gens qui mettent le mot « enfer » à toutes les sauces. Ils ne savent pas, hein, ce qu'ils disent. Hein? Une vitesse d'enfer, un train d'enfer, une soif d'enfer, une danse d'enfer. Non, non, mais on plaisante. Hein. Mais vous savez que c'est pas aussi drôle que ça. Hein. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils disent. C'est que derrière, il y a quelqu'un qui les pousse. Hein. une soif d'enfer. Et le péché, c'est bien cela ce qu'il donne, qui laisse les hommes insatisfaits, qui les laisse mécontents, qui les laisse agressifs de ne pas pouvoir boire assez. Alors ils goûtent à tout, et quand ils ont goûté à tout, ils se disent encore, 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 jusqu'à mourir. Jamais heureux. Cette soif d'illusion persistera jusqu'à la fin, jusqu'en l'éternité, s'il ne change pas de source. C'est pour ça que Jésus dira à la Samaritaine, « Eh bien, tu peux revenir autant que tu veux, puiser là dans ton puits de ton village. Tu vas venir demain matin, tu reviendras demain midi, tu reviendras demain soir, et tu reviendras jusqu'à ce que tu sois une vieille femme, jusqu'à ce que tu n'en puisses plus te porter tes seaux. Et tu boiras toujours la même eau. Mais moi, je te donnerai quelque chose de meilleur, quelque chose de formidable, que tu ne connais pas si tu veux le secret du bonheur. Alors à ce moment-là, écoute-moi. Femme de Samarie, change de source aujourd'hui. Change de ressource. Parce que tant que tu suivras ce chemin, tu seras malheureux, malheureuse. Et tu auras toujours soif. Change de ressource d'espérance. Pauvre femme, elle avait pensé que c'était dans l'affect, en multipliant les maris. Est-ce qu'on peut être heureux en multipliant les maris? Puis ça va dans l'autre sens aussi. Hein? Non. Est-ce qu'on peut être heureux en faisant ceci et cela, où la parole nous dit, mais attention, parce que c'est pas bon. Un mari, c'est déjà pas mal, hein? Qu'est-ce que vous en pensez, mesdames? Ah oui, ça je m'y attendais. Enfin bon, ils ont tous bon caractère, ils sont formidables. C'est vrai, vous l'avez choisi. À partir du moment où vous l'avez choisi, vous ne pouvez plus rien dire. Hein. Eh, bah bon, je retire ce que j'ai dit et on continue. Voilà. Jésus a eu soif parce que, pour que nous n'ayons plus soif de notre vie. Parce que la condition, c'est de se repentir. Vous savez qu'il y a un homme qui en parle. Il en parle bien, c'est David, dans le psaume 32 et au verset 4. Ah oui, il nous dit cela parce que lui, il avait allumé un feu dans sa vie. Comme le livre d'Ecclésias ou les Proverbes qui nous dit, je ne sais plus lequel livre, en tous les cas, je sais que ça doit être dans le livre d'Ecclésias, me semble-t-il. Non, Proverbe. Quelqu'un allumera-t-il un feu dans son sein sans que son vêtement s'enflamme, hein? Vous connaissez? Non, vous ne connaissez pas. Bon, c'est dans la Bible, hein, vous me faites confiance. Écoutez, David avait allumé un feu et il avait bien du mal à l'éteindre. Hein. Vous savez que l'histoire de Bathsheba, là, il dit ceci. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'apesantit sur moi. Ma vigueur n'était que sécheresse comme celle de l'été. Il aurait bien voulu boire, David, pour étancher sa soif morale et sa dégringolade spirituelle. Mais jusqu'au jour où il s'est repenti. Et il dit à ce moment-là, je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu m'as délivré. Et tu m'as altéré. Tu m'as désaltéré, pardon. Et tu m'as donné... Finalement, cette eau qui lave à la fois mon péché et qui me délivre de mon dessèchement dans mon cœur, dans mon corps et dans mon âme, la repentance. La repentance. La raison de la soif spirituelle, c'est le péché parce qu'il donne la mort. Il entraîne à la mort et la mort, c'est une séparation. La soif spirituelle provient de cette rupture de relation. Je dirais, si vous voulez, de communion avec Dieu. Dieu est la vie. Il est la vie éternelle. Il est la vie dans le plein sens du mot. Dans le psaume 42, c'est le psalmiste qui écrit ça, parce que c'est un des plus beaux psaumes, je l'affectionne particulièrement. « Comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi soupire mon âme, soupire après toi, Seigneur, ô mon Dieu, mon âme, a faim. » Mon âme a soif de toi, a soif de Dieu, a soif du Dieu vivant. En dehors du Seigneur, on ne pourra jamais être satisfait et être heureux. Et s'il y a des frères et des sœurs au milieu de nous qui disent pourtant « j'ai le Seigneur, mais je ne suis quand même pas heureux », écoutez, approchez-vous de lui un peu plus près, ou rapprochez-lui de lui un peu plus près, et il vous donnera de cette eau. Et vous verrez qu'il y a bien des choses qui disparaîtront dans votre vie. Il y a des choses qui vont ternir, des choses qui vont pâlir, qui vous passionnent, qui vous illuminent, qui scintillent, mais qui n'est que finalement eh bien, que du scintillement et de l'illusion. Comme une biche soupire après les courants d'eau, « Seigneur, j'ai soif !» En réalité, l'homme a soif de vérité. Il a soif d'amour, il a soif de pardon, il a soif de satisfaction. En d'autres termes, il a soif de vie, tout simplement. Et quand Jésus nous répond à cette soif, il dit « Mais je donnerai ma vie pour mes brebis. » Et là, ce n'est pas de l'eau qui coule, hein, c'est du sang. C'est du sang. Une des caractéristiques du salut, c'est la satisfaction parfaite. C'est le bonheur de ne plus connaître aucune soif. Dans le livre de l'Apocalypse, et je tourne quelques pages, il nous est parlé justement que le salut, c'est quand nous n'avons plus soif et quand nous n'aurons plus définitivement soif. Écoutez ces beaux versets, quand il est dit ceci. Apocalypse 7, verset 16, « Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, le soleil ni aucune chaleur ne les frapperont, car l'agneau est au milieu du trône, il les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. » Les larmes, c'est de l'eau aussi, hein. Et ce n'est pas de l'eau qui rentre, c'est de l'eau qui sort, là. Parce qu'il y a de la souffrance, parce qu'il y a de la peine, parce qu'il y a un dessèchement. Et plus on pleure, plus on se dessèche, parce que l'eau s'en va. Et vous avez vu le salut ? La vie éternelle, il nous est dit qu'il n'y aura plus de larmes, plus de pleurs. On n'aura plus soif. Vous n'êtes certainement pas trop pressé d'aller au ciel, enfin de mourir. Mais nous savons que nous avons une espérance merveilleuse, quelque chose de formidable, de ce que nous ne pourrions peut-être pas décrire. Hein. Mais dans le ciel, toutes ces choses auront disparu. Parce que Jésus a dit, j'ai soif, pour que nous n'ayons plus jamais soif. À la condition, et c'est la Bible qui le dit, à l'inverse, les conditions réservées aux incrédules et aux endurcis volontaires sera une soif infernale inassouvie qui n'aura pas de fin. Pour preuve, à en croire les paroles de Jésus qui suivent dans l'évangile de Luc et au chapitre 16, écoutez, connaissez cette parabole de Lazare qui se retrouve de l'autre côté ? Je lis le texte. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, c'est Lazare, hein, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Enfin, c'est le mauvais riche, hein, c'est pas Lazare. Hein. C'est l'histoire de Lazare, mais c'est l'histoire du mauvais riche que nous lisons en ce moment. Il s'écria, « Père, Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse. » On peut en sourire, même mis dans une parabole, mais moi je crois au bonheur éternel et je crois aussi aux peines éternelles, pour l'incrédule et pour celui qui refuse Jésus. Ça c'est la doctrine. C'est pas comme le monde le dit, où certains théologiens déviants, nous irons tous au paradis. Les bons, les petits, les grands, les mauvais, les bandits, enfin bon, écoutez la chanson, moi je ne peux pas la supporter. Sans aucun doute, les lamentations et les gémissements éternels monteront de l'enfer. C'est une réalité et c'est la Bible. Et si Jésus nous l'a dit, c'est que c'est une réalité. C'est pourquoi nous prêchons le salut et nous disons aux hommes qui ont faim et qui ont soif, venez vous désaltérer et changez de source. Et là, dans l'enfer, si Jésus a dit sur la terre, j'ai soif, si le psalmiste a dit, j'ai soif, mais dans le bon sens de recevoir la pluie de Dieu pour le désaltérer, dans l'enfer, ça sera le thème continuel. Ça sera j'ai soif, mais éternellement à ce moment-là. Et tout cela pour ne pas avoir voulu croire et accepter celui qui pouvait les désaltérer et les abreuver une fois pour toutes. Je termine. Dans l'Ancien Testament, il y a deux histoires brèves qui préfigurent la valeur des souffrances de Jésus-Christ, notamment cette soif qu'il a connue et acceptée pour notre salut et notre bonheur. Salut éternel et notre bonheur présent. D'abord, on se souviendra du passage de la mer Rouge, ça nous ramène à Pâques, hein, en quelque sorte, et de la traversée du Jourdain. C'était le passage obligé pour rentrer dans la terre promise, dans le pays de Canaan, où coule le lait et le miel. Mais il y avait de l'eau aussi. Hein. De toute façon, il ne peut pas y avoir de lait et de miel s'il n'y a pas d'eau. Hein, enfin, il me semble, hein, moi je ne suis pas trop calé dans ce domaine, mais... Hein, mais... Par un miracle, vous en souviendrez, les Israélites ont traversé à pied sec. miraculeusement. C'est-à-dire que ces barrières naturelles infranchissables ont été asséchées pour le passage d'Israël. Et je crois que ça, c'est une belle image d'anticipation qui illustre combien Christ a été asséché, a été assoiffé. Jésus, c'est notre mer rouge, c'est notre Jourdain, en quelque sorte, qui nous donne de passer de l'esclavage de l'Égypte, du monde, jusque dans le pays de la promesse. C'est lui qui nous donne de passer de ces conditions de vie humaine précaires que nous avons, même si nous pouvons prétendre d'avoir une belle vie sur terre, jusque dans le royaume de Dieu, le royaume éternel, où il n'y a plus de larmes, où il n'y a plus de souffrance, où il n'y a plus de mort. Et je crois que Christ a été asséché, justement pour nous ouvrir, pour nous frayer un chemin qui nous conduit aux richesses spirituelles et à la vie éternelle. Ça, c'est la première histoire. Et puis, vous en souviendrez toujours, en ce qui concerne Israël, il y a dans le désert de Sinaï particulièrement, il est question d'un rocher. Un rocher que Moïse a frappé sur l'ordre de Dieu. Frappe ce rocher et il va en jaillir de l'eau. Effectivement, il en a jailli une source pure qui a servi à désaltérer le peuple de Dieu, le peuple hébreu, qui mourait de soif, parce qu'ils étaient en train de mourir de soif. Et là, Aaron et Moïse étaient bien préoccupés parce que le peuple commençait à se révolter. C'est comme à Meriba, c'est comme à c'est à Élim, ou avant Élim, où le peuple est dit, si tu ne nous donnes pas d'eau, tu nous as fait sortir d'Égypte, nous aurions préféré mourir finalement en Égypte, alors on va te couper la tête, hein, on va te jeter des pierres et tu vas mourir, Moïse. Et là, le peuple était prêt à faire quelque chose de terrible sur la personne des serviteurs de Dieu, et il mourait de soif. Mais quand nous lisons dans Corinthiens chapitre 10, il nous est dit que ce rocher était Christ qui marchait devant eux et qui les a abreuvés pour les conduire. Mais il nous est dit aussi qu'il y en a beaucoup qui ont désobéi, qui n'ont pas cru. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eh bien, ils sont restés morts dans le désert. Ouais, parce qu'ils n'ont pas voulu boire de cette eau. Tout simplement. Le prophète Ésaïe vient à la charge et nous dit au chapitre 53 et au verset 8, « Il a été frappé pour les péchés de mon peuple, frappé de Dieu, l'Éternel l'a frappé, l'iniquité, et a fait reposer sur lui l'iniquité de nous tous. » Vous avez remarqué le verbe « frapper » comme le rocher. Vous voyez ? Moïse a pris son bâton sur l'ordre de Dieu en disant « frappe ce rocher le plus dur. » Et là, de ce rocher, il y a une source qui a jailli, une source d'eau fraîche. Et vous ne trouvez pas que nous pouvons faire une formidable allusion à Christ qui a été frappé pour nous, comme le dit Ésaïe ? Ce rocher qui marche, ce rocher vivant, c'est Christ, qui a été frappé à la croix du calvaire et que de lui sortent les sources et les ressources de la vie. De l'eau, de la vie. Existence frappée d'où rejaillit une source puissante de vie qui seule est capable d'apaiser la soif des hommes, soif de pardon. C'est pas qu'aujourd'hui, traditionnellement, mais moi je voudrais dire à mes frères et mes sœurs, que Dieu, si vous le voulez, ce matin, il vous dit encore une fois qu'il vous pardonne.
Ouais. À la condition que vous lui demandiez pardon et que vous vous repentiez de vos péchés. Il vous pardonne. Il me charge de vous dire qu'il vous pardonne. Croyez-le. Il vous pardonne votre vie. Il vous pardonne votre histoire. Il vous pardonne vos folies. Il vous pardonne tout ce que vous avez pu faire. Il vous pardonne, mais il faut le croire. Il faut lui demander pardon. Et après, vous aurez la paix qui accompagne son pardon. Moi, je le dis parce que je le sais. Et non seulement je le sais, mais je le crois. Et je voudrais tellement que vous puissiez le croire, vous aussi.
Soif de pardon, soif d'éternité, soif de paix, soif d'espérance. La vie n'est pas vivable en dehors de la paix.
Quand on voit le monde dans lequel les choses dans lesquelles ils se débattent, quand on voit un petit peu ce qui se passe autour de nous, mais la paix, elle n'est pas seulement en Irak. Vous savez que c'est une vie infernale en Irak en ce moment. J'ai regardé un reportage dernièrement, mais c'est la suspicion, c'est les bombes là à n'importe quel endroit des rues, c'est des enfants qui sont kidnappés, c'est des rançons, c'est la folie, c'est l'enfer. Mais hélas, il y avait que l'Irak. Mais il n'y a pas que l'Irak. Hein. Il y a quelquefois même dans la vie de nos concitoyens, de nos contemporains, il y a parfois aussi eh bien, cette guerre permanente dans les couples ou dans les vies de chrétiens. C'est pas normal. Alors si vous avez soif de paix, le Seigneur va vous donner sa paix. Ouais. Il est peut-être temps de vous abreuver et de dire « Seigneur, ben maintenant je veux boire cette eau, je veux être lavé complètement à l'intérieur et à l'extérieur. » Parce que le bien le plus précieux que nous puissions avoir, c'est la paix. On a peut-être de l'argent, on a peut-être une situation, on a peut-être ceci et cela, mais si vous n'avez pas la paix, moi je préfère avoir faire du vélo. Remarquez, il faut dire que de Saint-Pont-Château, ça va faire loin. Enfin bon. Je vais acheter un tandem et puis je mettrai mon épouse devant, moi je resterai derrière. Vous avez compris ce que ça veut dire. C'est un petit clin d'œil, hein, mais bon, vous lui dites pas, ah bah tu es là, ma chérie. Bon, vous direz rien. Mais toujours est-il que c'est vrai, vaut mieux avoir rien avec la paix et la joie du Seigneur que d'avoir des choses qui nous empoisonnent et qui sont là toujours en train de nous tourmenter. Soif de paix. La paix, c'est formidable la paix. C'est merveilleux. Pour la paix, il y a des gens qui se. On parle d'une foule en liesse. Quand la paix revient dans un pays, vous avez vu, enfin moi j'étais pas là, j'étais pas né, mais en 1944, quand les Américains ont libéré la France, mais la France, après 4 ans d'occupation de choses terribles, comme en Irak en quelque sorte, eh bien les gens mais étaient fous de joie. Et c'était matériel, c'était national, c'était une paix qui n'a rien à voir avec la paix de Dieu. Et pourtant ils étaient heureux, hein. Alors ils ont fait des bêtises dans la joie. Mais toujours est-il que, parce qu'ils avaient retrouvé la paix, et nous, si nous connaissons cette paix, mais je dirais nous sommes les plus heureux de tous les hommes. La paix de Dieu, c'est formidable. Alors, ce matin, avant de terminer, parce que je ne veux pas être trop long quand même, hein, vous marquez un prédicateur, il parle normalement. Hein. Parce que s'il ne parle pas, c'est grave. Bon, simplement, Jésus nous a dit, j'ai soif. Pour que chacun d'entre nous, vous qui êtes ici, et ceux qui ne sont pas là, vous n'ayez plus jamais soif de votre vie. Présentement et pour l'éternité. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous donne sa grâce. Nous allons nous courber quelques instants. Seigneur, ton peuple est altéré. Ton peuple, Seigneur, a soif de vérité. Il a soif d'une nourriture solide. Il a soif de paix. Il a soif de délivrance. Il a soif de voir ses liens peut-être tomber, certainement. Seigneur, je te demande que tes paroles, qui sont des paroles d'un homme, mais des paroles d'un homme qui ont été puisées dans la parole de Dieu, cette parole qui est sainte, cette parole qui est la vie, eh bien, Seigneur, je te demande de donner la vie, Seigneur, avec ces paroles, à celui qui a besoin, et qu'à partir de cet instant, en effet, prenant conscience de notre soif, à ce moment-là, nous disions, Seigneur, je ne veux plus aller boire à toutes ces sources taries, à toutes ces sources amères, à toutes ces eaux saumâtres, à ces eaux fielleuses, à ces eaux douteuses, mais je veux boire à long trait, Seigneur, aux sources de la vie. Seigneur, je veux te rendre grâce et te remercier parce que je sais que les mots sont ce qu'ils sont, mais je sais que par-delà les mots, il y a l'action et l'onction du Saint-Esprit. Et je te demande de visiter mes frères et mes sœurs ce matin et de les bénir, Seigneur. Je te demande de visiter nos amis qui nous rejoignent. Et je te demande une bénédiction particulière sur eux. Je te prie, Père éternel, pour ceux et celles qui ne sont pas là, ceux qui sont, en effet, Père éternel, là, renfermés dans un assèchement traditionnel, dans, Seigneur, en effet, Père éternel, dans ce désert de ce monde, où le soleil est un soleil de plomb, un soleil qui fait mourir. Seigneur, dans le nom de Jésus, je veux te rendre grâce et te remercier de ce que Christ a été asséché pour que je n'aie plus soif. Je te rends grâce et je te remercie de ce que Christ a été frappé, Seigneur, frappé pour moi, frappé pour mes fautes, frappé pour mes péchés, frappé pour mes folies, pour que je ne sois pas moi-même frappé. Et qu'ainsi, Seigneur, eh bien, de ce rocher qui marche devant nous, qui marche devant moi, je puisse à chaque instant et à chaque moment me désaltérer, Seigneur, jusque dans la vie éternelle. Nous te rendons grâce et nous te remercions. Je sais que ton Saint-Esprit est présent ce matin et que nous ouvrons notre cœur. Et comme nous sommes là, Seigneur, comme si nous ouvrions des outres devant toi pour que la pluie du ciel descende, Seigneur, aie compassion et pitié, Seigneur, de nos desséchements. Seigneur, la parole nous dit, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre dit, qu'il vous enverra des temps de rafraîchissement. Eh bien, fais-les descendre ce matin. Nous sommes devant toi, nous sommes dans l'intimité de ta présence. Et nous voulons te demander maintenant, alors que chacun se penche sur son cœur, que chacun regarde à sa vie, que chacun regarde à son histoire, Seigneur, tu appelles maintenant et tu offres le pardon. Tu offres la délivrance, tu offres la libération. Seigneur, que ton Saint-Esprit agisse par-delà les paroles d'un homme, parce que ce sont les paroles de Dieu qui passent et qui libèrent, qui nous visitent et qui nous désaltèrent. Je te bénis ce matin. Nous te remercions, Seigneur, parce que nous croyons qu'à l'Évangile, il aurait manqué quelque chose. Si tu n'eus accompli, Seigneur, ce que l'Écriture avait prédit en disant tout simplement « j'ai soif », pour que les hommes d'aujourd'hui, d'hier, de demain, n'aient plus, au grand jamais, jamais plus soif. Et nous voulons te rendre grâce. Remplis nos cœurs maintenant. Descends au milieu de nous. Parle-nous, Seigneur. Visite-nous. Romps les liens, Seigneur. Romps les chaînes, Seigneur Jésus. Nous te le demandons en cet instant, et je sais, Seigneur, que nous prions en cet instant. Nous prions pour la délivrance. Nous prions pour le pardon. Nous prions, Seigneur, pour qu'une eau fraîche, qui descend du ciel, véritablement, Père éternel, non seulement nous lave, mais Seigneur nous désaltère, complètement et totalement. Louange et gloire à toi, Seigneur. Nous te bénissons. Bénissez le Seigneur pendant quelques instants. Bénissez-le pour l'eau qu'il nous a envoyée. Bénissez-le pour celui qui était frappé pour chacun d'entre nous. Bénissez-le parce qu'il a été asséché pour que je puisse vivre et que je puisse être là ce matin. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Bénissez le Seigneur, frères et sœurs. Allez-y maintenant. Quelques instants de louange et remerciez-le, frères et sœurs. Nous sommes sauvés à cause de Jésus-Christ, à cause de sa grâce. Et nous pouvons le remercier. Allez-y, brièvement. Dites-lui merci.